Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit où nous allons continuer à réfléchir sur les conséquences de la crise du coronavirus, de cette épidémie, du confinement qui en a suivi. Nous avons déjà consacré plusieurs émissions à ce thème et dans notre rubrique géopolitique et entreprise où nous faisons, où nous aidons à mettre en relation le monde de la géopolitique et le monde de l'entreprise, eh bien, nous vous proposons aujourd'hui une réflexion sur les entreprises et l'après-Covid. Pour cela, je reçois Philippe Stetter. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez un cabinet de conseil en formation, Delta Lead, où vous accompagnez notamment des dirigeants d'entreprises à travers la conduite du changement et à travers les évolutions de leur métier. Et vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « Discerner et décider », qui est une analyse prospective dédiée au service des dirigeants d'entreprises, où vous proposez donc 20 repères à l'usage des managers, un livre d'ailleurs que l'on peut retrouver, je suppose, sur votre site internet, puisque il est également en format numérique. Et donc, vous proposez 20 repères à l'usage des managers. On va essayer d'en voir quelques-uns qui pourraient aider nos auditeurs à se repérer dans le monde de cet après-Covid. Notamment, il y a un élément sur lequel vous insistez, qui est effectivement important, qui est la notion d'entreprise et ce qu'est une entreprise. Et vous dites notamment qu'une entreprise n'est pas une machine à cash, mais qu'elle est autre chose, qu'on peut la voir aussi comme une communauté de personnes. Comment est-ce que vous définiriez l'entreprise et quel rôle vous pensez qu'elle peut avoir pour ses salariés ?
Alors, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Préciser que mon métier, je ne suis pas un conseil en formation, mais je suis un conseil très opérationnel et j'accompagne les directions plutôt des grandes entreprises sur des projets de transformation importants qui nécessitent d'embarquer très vite et très concrètement le corps social. Et comme, on y reviendra peut-être, on vit quand même dans un monde où les leviers de l'engagement et la notion d'autorité sont particulièrement difficiles, eh bien mon rôle est de faire obtenir par la ligne managériale le maximum de passage à l'acte du corps social de l'entreprise, étant donné que on obtient cet engagement qu'à partir du moment où on est capable de proposer quelque chose qui a du sens, quelque chose qui donne envie, quelque chose qui crée vraiment des degrés de liberté et quelque chose qui repose sur des communautés. Toute chose, on l'entend avec les thèmes que j'aborde, qui est parfois très difficile à mettre en œuvre dans des entreprises qui sont très processisées et où l'autonomie est souvent beaucoup plus un slogan qu'une réalité. Voilà, je ferme la parenthèse et je réponds à votre question. Ce qui est frappant, c'est que on oublie toujours que l'entreprise, c'est d'abord une communauté de collaborateurs, d'hommes et de femmes qui se retrouvent autour d'un bien commun. Ce bien commun se traduit avec des bénéfices qui peuvent être divers, évidemment, à commencer par le bénéfice des actionnaires et le bénéfice des salariés. Et puis, il n'y a pas que des bénéfices qui sont financiers. Mais je dis cela parce que, comme en France, on est dans un pays qui a un rapport très particulier à l'entreprise, et d'ailleurs, en règle générale, sur les plateaux de télé, l'entreprise n'est traitée que par des sociologues post-marxistes ou des syndicalistes post-archéo-néo-marxistes, ou alors des espèces de start-upers à moitié illuminés, on n'a pas une vision claire de l'entreprise, et l'entreprise est devenue une espèce, comme je le dis, de machine à cash. Oui, c'est quelque chose qui est là pour faire de l'argent. Non, l'entreprise, elle a un but social, elle a un objet social et c'est une aventure collective que l'on peut vivre de diverses manières, mais qui est une aventure collective. Et ce qui est frappant dans la crise du Covid, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que un supermarché Eh bien, c'était, mine de rien, une chaîne logistique qui permettait d'approvisionner des habitants en moment où tout le monde était confiné. Que des industries qui, d'un seul coup, arrivent à stopper leur production pour produire de l'alcool et du gel hydroalcoolique, alors qu'avant, elles faisaient des parfums ou des produits sucrants ou des cosmétiques, eh bien, l'entreprise, elle a un rôle social, de la même manière qu'elle irrigue un territoire avec de l'emploi. Et c'est très intéressant aussi, on y reviendra, parce que on a des entreprises qui courent après des schémas de marketing et de com pour essayer de définir leur fameuse RSE, alors que l'essentiel est là. Elles servent une communauté, un territoire, et elles sont utiles à la vraie vie des gens.
Vous avez évoqué effectivement de nombreuses entreprises qui ont changé leur production pour répondre aux besoins immédiats de cette crise Covid. Ce qui est intéressant, c'est que le confinement a été décrété quasiment du jour au lendemain. Enfin, quand il a été annoncé, il a eu quasiment un effet immédiat, donc avec très peu de temps pour les entreprises de s'adapter, et notamment d'adapter leur production et leurs salariés à ces nouvelles conditions. Et dans l'ensemble, on a vu qu'elles ont plutôt réussi, en un temps extrêmement rapide, à s'adapter notamment au télétravail, ou en tout cas à une situation non prévue de crise très forte. Ce qui montre qu'elles ont malgré tout une certaine agilité et une capacité à répondre parfois à des demandes qui sont immédiates et des situations de crise non prévues.
Écoutez, moi je travaille pour des très grandes entreprises et donc j'ai eu l'occasion de me faire raconter les interactions entre l'État qui venait au secours auprès de grandes entreprises pour assurer ou contrôler des opérations régaliennes. Ça fait froid dans le dos. Ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que tout le monde l'a vu, c'est qu'il y a au moins deux sujets sur lesquels les entreprises ont marqué des points là où l'État ne les a pas marqués, c'est l'anticipation et ce qu'on va appeler, comme le font tous les pédants, la résilience. L'anticipation d'abord, l'État français a un réseau diplomatique. L'État français a des capteurs partout sur la surface du monde, les grandes entreprises aussi. Je vais vous citer une grande entreprise qui travaille dans le retail, donc la distribution, une chaîne de magasins. Dès le mois de décembre, lorsqu'ils ont vu comment tournaient les choses à Wuhan en Chine, puisque à Wuhan c'est là où sont une partie de leurs fournisseurs, ils ont immédiatement commandé des masques pour les personnels de leurs magasins. Mais cette commande-là a eu lieu début janvier. Début janvier. Idem, un grand constructeur automobile qui a des usines en Chine a fait de même pour essayer de pouvoir continuer à produire malgré un potentiel état de crise. Bon, finalement est arrivé le confinement et tous ces masques ont été redistribués, là encore dans un chaos de la part des ARS qui mériterait de... Il y a un bouquin à faire sur le délitement de l'État français là-dessus. Bon, donc à l'évidence, il y a des ressources dans les entreprises et des fonctionnements qui sont beaucoup plus en capacité de répondre à des crises. Et effectivement, je citais l'agilité. Enfin, en quelques jours, vous avez des boîtes comme Dior ou Guerlain, mais également le sucrier Tereos, également L'Oréal, qui ont stoppé leur production et converti ça en production de, par exemple, gel hydroalcoolique, mais y compris en allant chercher du conditionnement, des étiquettes et des choses qu'ils n'étaient pas habitués à faire. Donc il y a effectivement une agilité très forte. Au-delà de ça, et c'est ce que je dis dans ce petit livret, et j'engage les patrons d'entreprise à le prendre en compte, c'est que, évidemment, tout le monde prend en compte les conséquences de la crise pour le salarié. Le chef d'entreprise, il pense à ses salariés. Il ne faut pas oublier que le salarié est aussi un citoyen. Et moi, il me semble que le citoyen, il a quand même constaté, au travers de cette crise, un délitement et une incapacité de l'autorité à répondre qui était particulièrement forte. On peut disserter sur le cas du professeur Raoult. La réalité, c'est qu'on a laissé mourir des personnes âgées dans les EHPAD qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu soutenir, pour lesquelles on n'a pas pu se déplacer, et même aux enterrements desquels on n'a pas pu aller. Alors que nous sommes censés être une grande puissance et un pays que le monde entier nous envie. Et ça, tout le monde l'a vu, et je pense que ce n'est pas sans conséquence dans la psyché d'un collaborateur qui, par ailleurs, tous les jours, se bat dans une espèce de compétition économique majeure où il faut essayer de faire mieux que les autres avec nos atouts, mais aussi nos handicaps et parfois nos boulets.
Alors, effectivement, vous avez évoqué la notion de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est la tarte à la crème. D'ailleurs, les grandes entreprises doivent faire un compte rendu de RSE et un bilan annuel. Donc, c'est un élément qu'on voit un peu partout. Et vous présentez donc cette RSE. Vous dites qu'il faut un recentrage vers les solidarités réelles. C'est-à-dire, finalement, de quelque chose d'assez inconsistant dont on parle beaucoup, en faire quelque chose de réel. Est davantage consistant et davantage utile pour les salariés eux-mêmes.
Oui, il y a deux éléments pour aborder ce sujet. Il y a d'abord, il y a la phrase de Védrine que je cite, qui était dans une interview en plein milieu de la crise, où il dit « Le choc du coronavirus est en train de pulvériser un certain nombre de réflexes, d'idéologies et de croyances très enracinées. » Quand vous regardez les RSE des grandes entreprises, et par définition, les grandes entreprises sont celles qui sont exposées médiatiquement plus que les autres, qui ont des communications financières, qui ont une exposition publicitaire, etc. Vous prenez leur fameuse responsabilité sociale d'entreprise, ou sociale et environnementale, c'est une espèce de... C'est beaucoup plus d'ailleurs du sociétal, donc on va retrouver les valeurs d'inclusion, on va retrouver bien évidemment le fait de prendre soin de la planète, quelle que soit la réalité des productions d'ailleurs, des achats et tout ce qu'on veut. Mais donc, enfin, on a une espèce de communication qui est faite par les directeurs de communication et les DRH pour plaire aux journalistes et aux analystes du marché. Cette communication est d'ailleurs parfaitement nuisible vis-à-vis des propres collaborateurs qui voient bien dans les usines, dans les circuits de distribution ou dans les services support que leur sujet à eux et les sujets sur lesquels ils aimeraient que leur entreprise contribue, ce sont des tâches concrètes et pas les espèces de déclarations d'intention qu'on trouve qui sont les mêmes de Paris à Shanghai et de New York à Sao Paulo. Première chose. Deuxièmement, c'est que effectivement, on s'est rendu compte, comme je le disais, que finalement, quel meilleur RSE que d'être capable d'aller livrer des masques à l'EHPAD du coin totalement isolé du fait par les pouvoirs publics. Vous êtes une usine, je travaille aujourd'hui dans une usine de construction ferroviaire, une grande usine de 800 personnes, et en fait, dans un territoire assez désindustrialisé, et en fait, cette usine est évidemment le poumon du secteur, et ce sont eux qui sont allés distribuer des masques et du gel, parce qu'eux avaient pu en acquérir avant les phases hautes de la crise, à des hôpitaux, aux services publics, aux EHPAD, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise arrive à jouer un rôle qui est social, qui est sur le territoire dans lequel vivent les gens qui travaillent, dans les EHPAD dans lesquels il y a les retraités qui ont passé une partie de leur vie dans l'usine. C'est ça la responsabilité sociale et environnementale. Et aujourd'hui, où la société est totalement fracturée, eh bien, je crains que et je perçois que les salariés, ce qu'ils vont attendre de leur entreprise, et une partie de la contrepartie de l'engagement qu'ils pourraient y déployer, ce serait justement de comprendre qu'on a un impact fort sur la région dans laquelle on vit, et ça va même y compris sur les identités ouvrières, fierté du drapeau, de la marque ou quoi que ce soit. Il y a toute une dimension, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, on est sur des dimensions qu'on pourrait imaginer un peu dans un spectre politique, dans des zones sur lesquelles on n'a pas envie de toucher. Et donc, les dirigeants sont totalement démunis. Ils ne savent pas faire par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant. Et donc, aujourd'hui, les leviers de l'engagement, dans une interview que j'avais faite dans un autre support, j'avais dit on va assister à un mouvement de réenracinement des entreprises, qui paraît totalement contre-intuitif, parce qu'on nous parle des multinationales, et puis il faut être complètement mondial. Moi, je pense, et j'en vois déjà des résultats, que tout ce que nous vivons sur le localisme, y compris la relocalisation du Made in France, ça, je pressens et je constate à certains endroits que l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise va être beaucoup plus qu'avant lié à la compréhension par les collaborateurs que leurs enjeux à eux, leur territoire, leurs emplois, etc., sont bénéficiaires de l'entreprise en question. Et c'est le contresens majeur, c'est, je vais prendre un exemple parce qu'il est quand même éblouissant, c'est PSA L'entreprise Peugeot Citroën, qui a toujours bénéficié d'un ancrage fort dans les territoires, délocalisé beaucoup moins que Renault, par exemple, et là, pour des raisons d'économie que comptablement on peut comprendre, décide d'importer 500 intérimaires polonais, puisque l'usine de Gliwice n'est pas suffisamment chargée, pour que ce soit ses salariés polonais, qui sont des salariés plein temps, qui ne sont pas des intérimaires, pardon, et c'est ces gens-là qui vont aller dans le Valenciennois pour monter une troisième équipe dans l'usine de Sevel-Nord en lieu et place des intérimaires classiques du bassin valenciennois. Donc là, la loyauté territoriale de l'entreprise est mise à mal. Et ce sont des erreurs. Ils ont été obligés de faire marche arrière. Il n'y aura plus qu'une centaine de gars. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans il y a une contribution récente que je cite des syndicats, de l'ensemble des syndicats en avril de 2020 pour France Stratégie. Et ils contribuent à la plateforme RSE. Et la CGC explique qu'il va falloir réindustrialiser et relocaliser des activités en Europe et en France pour assurer notre souveraineté économique et redonner l'espoir aux Français. Il faut un New Deal social. Même les syndicats sentent que les leviers d'engagement des collaborateurs vont passer par plus de solidarité réelle, locale, incarnée, comme je le disais.
Alors, vous évoquez effectivement ce réenracinement ou ces relocalisations. C'est un élément, un thème qui est revenu tout au long de ce confinement. À cela près, qu'on pourrait dire que relocaliser, peut-être que tout le monde est d'accord sur le fait de le faire. La question, c'est comment on le fait et est-ce que c'est possible de le faire également dans un pays qui a, par exemple, des taux de fiscalité extrêmement importants ou bien des contraintes en termes de code du travail qui sont défavorables par rapport à ses voisins européens.
Vous avez tout à fait raison, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin, premièrement. Même avant la crise Covid, c'est il y a un an environ, vous avez certainement dû suivre ça de près. Vous vous souvenez que l'entreprise Safran, qui est bien en peine aujourd'hui, a voulu construire deux usines et que tous les trois mois, on avait le PDG, Petit Colin, qui hurlait dans la presse en disant « je n'y arrive pas avec les autorisations, les machins, les trucs, les bidules ». Donc, je sais bien que c'est compliqué de rapatrier de la production industrielle. Mais premièrement, ça devrait être érigé comme une priorité nationale parce que au-delà de la rupture des chaînes, d'approvisionnement, y compris sur des technologies ou des produits clés, on sait très bien que les dégâts que la désindustrialisation fait sur tout l'écosystème, et donc les entreprises sans usine, merci de Churuc et Nokia qui fait un énième plan social, ça ne marche pas. Les Français, alors évidemment, les sondages disent que les Français sont évidemment prêts, même 89% des sondés dans un sondage des Échos en avril disaient qu'ils sont favorables à ce que les industriels français relocalisent, même si ça augmente le prix final pour le consommateur. On le verra. Encore faudrait-il, enfin, il est toujours possible d'équilibrer, alors ça s'appelle le protectionnisme, je sais que c'est très mal et que c'est limite si on va pas en prison si on dit ça, mais si on veut jouer avec la fiscalité, on le peut. Et puis, enfin, j'ajoute que quand vous interrogez les investisseurs sur ce qui fait qu'ils n'investissent pas en France, souvent on nous sent le coût du travail, c'est pas tant que ça. Le premier risque qui est mis en avant, c'est l'insécurité juridique. Alors, l'insécurité juridique, elle ne tient qu'à nous de ne pas changer tous les ans des lois ou des décisions de justice qui fait que quand vous faites un plan social en 1998 et qu'il est accepté, ben, en 2012, la cour d'appel, dans son deuxième jugement, vous condamne à filer 20 000 balles à tout le monde parce que patati patata. Bon. Oui, évidemment, ça va pas être simple, rien ne sera simple, mais il me semble que aux arguments qu'on avait sur les risques les impacts de la désindustrialisation, on vient d'avoir un argument supplémentaire. On vient de nous annoncer que Sanofi allait rapatrier une partie des principes actifs pour le paracétamol. Bon, ben c'est un bon début, attendons de voir ce qui va se passer. Le combat est rude. Le combat est rude parce que c'est pas une philosophie d'État et que beaucoup de dirigeants d'entreprise n'ont pas compris le message. Et aujourd'hui, vous avez dans l'automobile notamment, vous avez une volonté très claire à l'occasion de la crise de certains constructeurs et de plusieurs constructeurs de, entre guillemets, nettoyer le tissu des petits équipementiers, notamment de, généralement de rang 2, pour essayer de construire une vraie filière de sous-traitance, alors en Inde plutôt qu'en Chine, mais enfin, demain ce sera l'Inde. L'Inde, je ne pense pas qu'elle soit à l'abri d'une autre pandémie. Donc le combat est culturel, à l'évidence le combat est culturel, mais on est qu'au début d'un tournant de prise de conscience sur ce sujet-là, je le crains.
Alors, dernière question, Philippe Schetter, sur le télétravail. C'est un sujet que vous abordez également, sur lequel vous montrez assez circonspect. D'ailleurs, on a vu également, même dans l'opinion, une certaine évolution. Au début, tout le monde pouvait trouver ça bien, puis au fur et à mesure, les éléments un peu plus négatifs se sont fait sentir. Le télétravail, est-ce que ça peut être une solution à terme, ou est-ce que c'est un moyen, un outil parmi d'autres qui sont entre les mains à la choix du dirigeant et des salariés?
Écoutez, là aussi, c'est un sujet complexe et donc il faut pas être trop définitif. Sur le papier, moi je verrais à peu près plutôt que des inconvénients d'ordre, je dirais, moral, psychologique et même de productivité sur le télétravail. C'est-à-dire que, d'abord, travailler à la maison, je pense que c'est un non-sens anthropologique et sur la valeur du travail. Mais ça, évidemment, ça vous le mesurez là tout de suite, personne n'y comprend rien, on voit pas. Je pense que c'est des tendances lourdes qui pèsent sur les gens, je m'étends pas sur le sujet, il nous faudrait plus de temps que ça. Deuxièmement, on a quand même beaucoup et de plus en plus d'études qui montrent que le télétravail a beaucoup de succès sur ceux qui l'ont pas encore fait, et est beaucoup moins salué chez ceux qui le font, et que les productivités du télétravail sont généralement très fortes dans les premiers moments, et commence à être beaucoup plus faible après 3, 4, 6 mois. Enfin, dans un pays où les élites sont accusées d'être hors sol, lointaines, coupées de la réalité du terrain, je ne suis pas certain qu'il faille multiplier le télétravail. Enfin, notamment dans l'industrie, il ne faut pas rêver, les ingénieurs, les bureaux d'études, les recherches et développements fonctionnent parce qu'ils sont sur le terrain. Or, je vois très bien en région parisienne, avec tous les centres de recherche, avec des CSP+, qui ont les moyens d'avoir un bureau chez eux, ils préfèrent travailler chez eux, mais ils ne se rendent pas compte. Pourquoi les Chinois, les Coréens, une des raisons qui font qu'ils déposent beaucoup plus de brevets que nous, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'eux, ils sont en permanence dans les usines. Et c'est pas pour les contraindre, c'est parce que dans n'importe quelle culture d'efficacité industrielle, on vous parle du Gemba. Le Gemba, c'est le terrain, c'est là où sont les problèmes, c'est là où on les traite. Bref. Et je pense d'ailleurs que certaines entreprises vont se mettre en difficulté avec trop de télétravail, parce que je prends un exemple simple, hein, quand vous avez mis un ingénieur qui est dans un bureau d'études, dans un grand centre de recherche, près d'un grand centre urbain, et que vous le mettez en télétravail, et qu'au bout de 4 ans, vous dites maintenant tu vas aller dans l'usine, et dans l'usine tu es 2 jours, tu es dans l'usine 8 heures par jour, ben, y a des gens qui diront non, j'ai pas envie. Et donc vous allez soit créer des endogamies, soit perdre des talents. Bon, donc pour plein de raisons, je me méfie énormément du télétravail. Maintenant, je suis bien obligé de constater l'état absolument catastrophique. Moi, j'habite en région parisienne. L'état absolument catastrophique du réseau routier et des transports en commun qui sont irréguliers, qui sont sales, qui sont pas sécurisés. Et donc, je peux très bien comprendre qu'on veuille faire du télétravail. Il y a une marque qui était intéressante, hein. Là, je reprends Peugeot parce que c'est eux qui sont dans l'actu. Vous avez vu qu'il y a un mois, le DRH groupe de PSA, que je connais bien, Xavier Chérault, a dit, voilà, pour tous nos personnels tertiaires d'Île-de-France, le télétravail va être la norme et la présence au bureau l'exception. Et ça va être génial. Et d'ailleurs, pour un DRH d'un groupe qui vend des voitures, il nous explique qu'en plus, ce sera bien parce que ça limitera les bagnoles dans les rues. Bon, donc c'est à voir quand même parfois les types ce qu'ils ont dans le crâne. Mais comme le gars, il est par ailleurs directeur de la transformation et du parc immobilier, tout le monde a bien compris ce qu'on voulait dire. Derrière, il y a eu des sondages qui ont été faits. Alors, il y a plusieurs sondages. Il y a un sondage de la direction, c'est comme dans les manifs. Il y a un sondage de la direction, puis il y a un sondage des syndicats. Mais le sondage de la CGT, de la CFDT dit 56% des gens interrogés ne veulent pas travailler plus de 3 jours par semaine. Donc, ils ne veulent pas les 3 jours et demi ou les 4 jours. Blague. Moi, je pense que il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est une communauté humaine. On aime aussi venir parce que on vient aussi voir les collègues. Regardez le monde qu'on nous prépare. Entre le fait que vous allez tout faire votre commerce en web avec des gens qui vous livrent, le fait que vous, en gros, vous ne voyez plus personne, le seul endroit où vous allez voir des foules, ça va être peut-être si vous faites du sport et dans l'entreprise. L'entreprise est un lieu est aussi un lieu de société, de civilisation. L'entreprise est un lieu de transmission. L'entreprise est un lieu où, à mon avis, beaucoup de valeurs existent, se perpétuent, s'entretiennent et se transmettent. Et je pense que les entreprises prendraient des risques à dissoudre ou fragiliser la communauté de ceux qui se battent en son sein pour elle.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Chatter, d'avoir évoqué ces points, effectivement, de transformation, de management et d'avoir ainsi ouvert quelques pistes de réflexion. Je rappelle que vous dirigez le cabinet Delta Lead. Nos éditeurs peuvent trouver l'ensemble des références sur le site internet de Conflit, ainsi que le lien vers l'ouvrage que vous avez publié, c'est Discerner et décider, 20 repères à l'usage des managers pour agir et travailler dans le monde de l'après-Covid-19.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.